Et hier, nous avons fait une nouvelle expérience. Ça a été nouveau pour nous tous parce que jusqu'à présent, nous n'avions jamais voté dans des élections. Et je ne me souviens pas d'avoir voté par rapport à des questions du GAC depuis que je suis ici. C'est une question qui pourrait être introduite. Mais pour le moment, il y a eu la tradition que nous avons suivie, c'est celle de chercher un consensus. Que nous soyons d'accord ou pas d'accord, cela peut arriver. Mais on n'a jamais voté par rapport à une question de fond. Merci. S'il y a des questions par rapport à la présentation, vous pouvez les poser maintenant ou peut-être après. Tout d'abord, première question, je tiens à féliciter le président élu du GAC. Ma question concerne la question du secrétariat. À ma connaissance, le secrétariat fonctionne sur la base des financements de certains gouvernements. Est-ce que c'est correct ou pas de se dire que la durabilité et l'efficacité du GAC dépendent d'un groupe de gouvernement plutôt que d'un soutien qui pourrait être mobilisé de la part de l'ICANN. Autrement dit, est-il possible ou est-il sûr de penser que, au fil du temps, quand le budget de l'ICANN va s'accroître, il y aura la possibilité pour l'ICANN de financer le secrétariat du GAC pour assurer la durabilité des opérations du GAC. Merci. Thomas Schneider prend la parole. Merci de vos félicitations et merci de votre question. Historiquement, c'était la Commission européenne, le gouvernement australien et le gouvernement indien qui ont assuré le secrétariat du GAC. Et au fil des années, on a voulu avoir un secrétariat plus important qui vienne s'ajouter au soutien que nous avons de la part de l'ICANN, du personnel de l'ICANN. Et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'on était prêt à financer donc ce soutien pour le secrétariat du GAC. Il y a eu des discussions, mais on a accepté que c'était quelque chose de positif et que nous allions essayer de mettre en place cette solution pendant quelques années. Il est clair que ces gouvernements qui financent le secrétariat n'ont aucune influence, ni dans le choix du secrétariat, ni dans la définition des conventions de services, ni par rapport au travail fait par le secrétariat. C'est le président qui a eu la responsabilité d'être en contact avec le travail du secrétariat. Nous avons travaillé avec ce secrétariat et jusqu'à présent, nous sommes très satisfaits. Donc, personne n'a proposé de modifier ce système pour le moment. En ce qui concerne la durabilité, je pense qu'il y a 3 donateurs et qui ne sont pas contre au fait que d'autres les rejoignent. Mais pour le moment, tout fonctionne très bien. Et personne n'a exprimé des commentaires ou s'est plaint de ce travail. Et pour le moment, on n'envisage pas de changer ce système. Leonid Anders prend la parole. Est-ce qu'on pourrait passer à la diapo suivante? Maintenant, je vais demander à Olga si Ashwin est dans la salle. Est-ce que vous pourriez venir? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de qui sont les représentants du GAC? Est-ce que c'est notre travail? Sommes-nous recrutés pour être représentants du GAC? Ou les représentants du GAC ont d'autres fonctions ailleurs que dans le GAC? Combien de temps vous consacrez au travail du GAC? Comment vous vous préparez à ces réunions? Je vais commencer avec Wanowick.
Je m'appelle Wanawit Akopotra. Je travaille pour l'Agence de développement des transactions électroniques qui se trouve dans le ministère des technologies de l'information et de la communication de la Thaïlande. Nous nous occupons là de tout ce qui est le plus important quant aux transactions électroniques, c'est-à-dire que ces transactions soient légales, qu'elles respectent les normes de sécurité, qu'elles respectent certaines normes spécifiques. Si nous parlons de certaines fonctions de l'organisation, nous sommes vraiment, nous avons un rapport étroit avec le travail que fait l'ICANN. Notre organisation a été établie il y a quelques 4 ans. Il y a une centaine de personnes qui y travaillent. Mais en 2011, la mission du GAC nous a transformés, nous, dans le ministère de la Science et la Technologie, et nous ne sommes plus sous le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication. Nous avons été désignés par ce ministère pour être en charge de tout ce qui concerne le GAC. Voilà comment nous fonctionnons, comment nous travaillons avec l'organisation. Maintenant, Olga Cavalli prend la parole. Merci à tous. Bonjour, Anders. Bonjour à tous. Moi, j'ai été conseillère du ministère des Affaires étrangères depuis 12 ans. Et j'ai toujours porté une attention toute particulière au développement de tout ce qui concerne les informations, la société de l'information et l'Internet et sa gouvernance. Ce qui s'est passé en 2005, c'est que depuis la réunion de l'SMSI de la Tunisie, le ministère a décidé d'établir un espace spécifique pour faire un suivi de toutes les réunions concernant la société de l'information et l'Internet, ce qui comprenait évidemment l'ICANN et la gouvernance de l'Internet, en particulier le FGI. Donc, le domaine où nous évoluons est beaucoup plus vaste. Nous nous occupons aussi de l'énergie, toutes les négociations au niveau international sur l'énergie. Il y a d'autres collègues qui s'occupent de ces thèmes. Il y a aussi 2 autres personnes qui suivent, ainsi que moi, toutes les questions liées à la société de l'information, l'Internet et sa gouvernance. Combien de temps je consacre ceci? Bon, je ne peux pas vous le dire honnêtement. Vous savez comment on travaille maintenant. Nous travaillons à longueur de journée, en recevant et en vérifiant notre courriel. Nous recevons des appels téléphoniques à n'importe quelle heure. Donc, la plupart de mon travail au ministère concerne le suivi de ces réunions. Nous ne suivons pas les réunions de l'UIT. Nous avons des rapports avec d'autres parties du gouvernement, d'autres secteurs du gouvernement qui font un suivi du travail de l'UIT, comme le secrétariat aux communications. Au niveau national, il y a une commission qui s'occupe du suivi de tout ce qui est lié aux questions à l'Internet. C'est la Commission argentine des politiques sur l'Internet. Là, nous avons des échanges et nous avons des échanges des points de vue avec le cctld.ar, le secrétariat de communication, d'autres ministères qui sont responsables de l'information, la sécurité, la cybersécurité. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère qui prend en quelque sorte, qui fonctionne comme le porte-parole du pays dans les réunions internationales. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Andel Sector répond, oui, je pense que vous l'avez fait. Maintenant, nous allons donner la bienvenue à Ashwin, le représentant de l'Indonésie. Je voulais que vous le connaissiez et je veux lui demander d'exprimer en quelques mots ses fonctions dans le gouvernement et dans le GAC. comment il se prépare pour la réunion du CAC et comment il travaille avec nous. Le représentant de l'Indonésie prend la parole. Nous partageons l'information entre tous. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme chercheur dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, les TIC. En Indonésie, nous pouvons aller à travailler dans n'importe quelle institution gouvernementale. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la recherche, mais j'ai pu ensuite passer à toute autre institution gouvernementale. Je suis ensuite devenue directeur de l'industrie ou responsable de l'industrie, et donc responsable de tout ce qui concerne l'entreprise, les entreprises et l'industrie des TIC. Donc, je travaille au ministère de la recherche et de la technologie où j'ai été responsable de différentes activités concernant les TIC avec les communautés de recherche, avec l'association des nations du sud-est asiatique et les organisations mondiales. Ensuite, je suis allée au ministère des TIC, de technologie de l'information et de la communication. Nous devons représenter dans ce ministère l'Indonésie auprès de beaucoup d'organisations. Nous devons représenter plusieurs organisations gouvernementales avec ce bureau du ministère qui s'occupe des TIC. Je dois le représenter, par exemple, dans cette réunion. Je dois le faire aussi au sein de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. Nous représentons aussi le pays dans beaucoup d'activités des Nations unies qui a autant d'organisations, tellement nombreuses. Beaucoup d'entre elles font beaucoup d'activités concernant les technologies de l'information et de la communication. Il y a, par exemple, le département des Nations unies pour les affaires sociales et économiques. Il y a aussi en ce moment une réunion qui a lieu à Bangkok, au bureau des drogues et des délits des Nations Unies, UNODC par son sigle anglais. C'est là que nous abordons tous les problèmes liés à la cyberdélinquance. Nous avons en plus à représenter notre pays dans d'autres organisations gouvernementales internationales comme l'Organisation mondiale du commerce et d'autres. L'ICANN est l'un des domaines ou l'une des institutions où nous représentons notre pays. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une organisation ni des Nations unies ni gouvernementale. C'est une organisation multipartite. Moi, j'ai été nommée pour représenter mon pays au sein du GAC. Donc, officiellement, nous devons représenter notre pays au sein du GAC. Le problème se présente aussi dans notre propre pays parce qu'il y a une organisation qui s'occupe de l'application des normes dans le domaine des TIC. Et cette organisation est très vaste aussi. Il y a beaucoup d'organisations au niveau gouvernemental, des entités privées, de la société civile. Donc, l'une de mes fonctions consiste à rencontrer ces organisations régulièrement pour avoir une idée des problèmes qu'ils doivent affronter, ce qu'elles veulent faire, etc. et à faire présenter leur idée au sein du GAC. J'ai su que dans le GAC, beaucoup de mes collègues doivent aussi s'occuper des intérêts de plusieurs organisations dans leur pays. Ce que je fais. Combien de temps ça me prend? Bon, c'est intéressant, hein. Comme mes collègues, je consacre à ceci beaucoup de temps et je dois m'occuper, bien sûr, d'autres affaires et de celles-ci. Dans le gouvernement, nous avons un certain soutien administratif. J'ai un petit secrétariat qui s'occupe de toutes les activités et qui m'aide à organiser mon travail. Et avant d'assister à une réunion comme celle-ci, dans mon pays, nous avons au moins 2 ou 3 réunions préliminaires avec d'autres organisations pour essayer de voir quelles sont les questions que nous voulons soulever au sein du GAC pour qu'elles soient débattues. J'espère vous avoir donné suffisamment d'informations. Merci beaucoup. Anders prend la parole. Merci, Ashwin. Si vous avez des questions pour les représentants du GAC, vous n'avez qu'à lever la main. Je voudrais maintenant céder la parole, si c'est possible. Et si vous pouvez passer à la prochaine diapo. Je voudrais donc céder la parole à Manal Ismail, comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail intercession. De nombreux représentants du GAC travaillent ou participent à des groupes de travail. Manel en est un exemple. Elle travaille intensément dans différents groupes. Elle va vous présenter un panorama, un tour d'horizon du fonctionnement de ces groupes de travail. Manel, je te demanderai aussi de bien vouloir faire quelques commentaires brefs sur ton rapport avec le gouvernement et ce que tu fais pour te préparer pour les réunions du GAC. Manel Ismail prend la parole. Merci Anders, merci à vous tous de venir nous rejoindre aujourd'hui de bonne heure. Je travaille avec l'autorité de régulation des télécommunications de l'Égypte. Nous abordons les questions concernant la gouvernance de l'Internet et la liaison avec l'ICANN et le FGI. Je travaille aussi avec les fournisseurs d'accès Internet, avec les opérateurs de télécommunications, avec ceux qui s'occupent des questions de la large bande sur Internet. Et avec, j'ai des rapports avec tous les opérateurs d'Internet et les fournisseurs d'accès Internet pour pouvoir définir les stratégies pour les projets de mise en œuvre de large bande et ce genre de choses. Même si je dois rapporter toute cette information à mon gouvernement sur la gouvernance de l'Internet et tous les thèmes qui sont liés à l'ICANN et son fonctionnement, je fais cela après mon horaire de travail. J'occupe mon temps libre pour cette tâche. Voyons donc la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je dois peut-être faire remarquer en premier lieu que le GAC discute des thèmes en plénière avec tous ses membres et ses membres doivent approuver cela. Tous les membres du GAC doivent approuver cela. Voilà la manière dont les débats se déroulent. Il y a cependant des thèmes qui suscitent trop de tensions ou ils sont trop controversés. Et nous avons donc besoin de quelqu'un qui puisse en faire un suivi. Nous définissons donc des responsables ou des leaders s'occupant de ces thèmes en particulier. Parfois, il arrive aussi que nous ayons besoin de créer des groupes de travail promouvant les activités sur une activité en particulier. Le GAC participe à ce que nous appelons trois catégories de travail ou des groupes de travail. La première concerne les groupes de travail internes du GAC. Ces groupes sont créés et dirigés par des membres du GAC et ils sont composés de membres qui fonctionnent, qui travaillent en qualité de bénévoles pour travailler sur ces thèmes-là parce que cela les intéresse. Par exemple, un groupe de travail interne et le groupe de renforcement des capacités et de formation, ainsi que le groupe de alertes précoces du GAC et celui des avis sur le nouveau GTLD, et ainsi que sur les questions liées aux futures séries des GTLD, le groupe de travail sur les méthodes de travail du GAC et plus récemment le groupe de travail sur la stratégie d'engagement gouvernemental. Voilà certains exemples. Si nous voyons la prochaine diapo, vous verrez qu'il y a d'autres groupes de travail conjoints constitués entre le GAC et d'autres unités constitutives de l'ICANN. Nous devrions peut-être dire qu'ils sont conjoints au lieu de dire intercommunautaires. Pour réduire, disons, la confusion que nous avons vue être suscitée. Parce qu'il y en a qui sont intercommunautaires et d'autres qui sont formés par différentes unités constitutives. Les exemples, par exemple, de ce type de groupe sont celui de la structure du cadre d'interprétation, le groupe de travail sur la mise en œuvre des recommandations entre le GAC et le conseil d'administration, et les recommandations sur la participation précoce du GAC dans le développement des politiques de la GNSO. pour que vous ayez une idée de la charge de travail que nous avons pour ces réunions, ce groupe du GAC et de la GNSO a commencé son travail au début de cette année. Nous avions des téléconférences deux fois par semaine et ensuite elles sont devenues hebdomadaires. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne consultons pas nos unités constitutives et nous ne pouvons pas avancer non plus si nous n'avons pas leur approbation pour voir la voie à suivre. Bien des fois, dans ce processus, nous devons faire des consultations auprès de ceux que nous représentons pour avoir une vision de consensus du GAC sur ces thèmes-là. Et enfin, nous avons dans cette diapo les groupes de travail intercommunautaires ou groupes de coordination. Encore une fois, comme vous le savez tous, nous avons une représentation de toutes les parties prenantes de la communauté. L'un des meilleurs exemples de ceci, et il y en a beaucoup de ces groupes de travail intercommunautaires travaillant sur la transition du rôle de supervision des fonctions IANA et sur tout ce qui concerne la responsabilité de l'ICAN. Le GAC est représenté aussi dans le groupe de travail s'occupant de la coordination et la transition du rôle de supervision des fonctions IANA. Nous avons 5 membres du GAC, y compris la présidente du GAC qui représente le GAC à l'ICG. Nous avons nommé 2 membres pour participer au groupe intercommunautaire s'occupant de la proposition en elle-même. La plupart de ce travail se fait dans la période intercession. Nous venons ici pour informer de ce qui a été discuté. Nous en parlons en séance plénière et nous prenons des décisions. Nous travaillons donc beaucoup en parallèle et dans la période intercession. Ceci n'apparaît pas dans la diapositive, mais il y a 2 appels que nous faisons dans la période d'intercession. Et bien sûr, notre présidente peut me corriger, mais ces appels sont faits surtout pour pouvoir décider des thèmes d'intérêt de notre ordre du jour, de la programmation de nos réunions, mais pas pour aborder des thèmes essentiels. Voilà, je cède encore la parole à Anders. Anders prend la parole. Merci, Manal. Il s'agit d'un exemple de cette soupe aux lettres, soupe alphabétique à laquelle nous faisons face, bien des fois. Si on ne participe pas à tous ces groupes, il faut tout de même reconnaître la quantité de travail qu'ils font. Nous avons vu pendant cette semaine tout le travail qui est fait dans d'autres unités constitutives. Je veux vous poser une question. Croyez-vous que la charge de travail c'est modifié avec le temps? Manal prend la parole. Oui, absolument. Oui, absolument. Il y a une augmentation significative de la charge de travail. Il y a trop de questions qui se rapportent au processus de développement politique qui se déroule en parallèle. La quantité de groupes de travail est de plus en plus grande. Et comme nous l'avons dit, même s'il y a la participation du GAC à ces groupes de travail, ses membres doivent revenir au GAC et nous devons trouver un consensus plus fort pour pouvoir faire des contributions au nom du GAC dans ces groupes de travail. En fait, nous avons mené une enquête adressée aux membres du GAC pour savoir s'ils connaissaient tous les mécanismes qui étaient en place pour pouvoir participer de manière précoce au PDP de la GNSO. En premier lieu, nous avons vu qu'il y avait un manque d'informations, mais en plus, nous avons découvert qu'il y avait trop d'informations dans certains cas pour pouvoir la gérer, pour pouvoir déterminer des priorités et suivre ce qui se passe. Alors, il faudrait que nous fassions comme communauté, que nous établissions une différence entre les matières ou les thèmes importants et les thèmes urgents, comme Heather l'a dit, pour que nous puissions nous centrer sur 2 ou 3 points qui ont besoin d'une réponse urgente et que nous, conservions, que nous gardions tout le mécanisme en marche. Anders Hector reprend la parole. Merci Manal. Maintenant, je voudrais voir la prochaine diapo. Je suppose que vous avez entendu parler du communiqué. Il a été mentionné à plusieurs reprises. Je voudrais donc céder la parole à Heather maintenant pour qu'elle nous explique un tout petit peu en quoi consiste le communiqué, pourquoi il a l'apparence ou l'aspect qu'il a et de quel type d'outil il s'agit lorsqu'on parle de communiqué, lorsqu'on parle du communiqué didactique. Heather Dryden prend la parole. Merci, Anders. Bonjour à tous. Vous savez que nous nous centrons beaucoup sur la rédaction de ce que nous appelons le communiqué pendant ces réunions en présence. C'est un document dont la rédaction est négociée et il reflète les résultats de toutes nos réunions, ce que nous voulons communiquer au conseil d'administration et à la communauté. Les gouvernements aiment bien disposer d'un texte, donc nous devons travailler dans les réunions pour parvenir à un consensus et pour nous mettre d'accord sur un texte concernant les différents thèmes, tout ce que vous pouvez voir dans le communiqué. Il y a bien sûr un avis que le comité consultatif présente et qui, par les statuts de l'ICANN, a un sens particulier, une position particulière. C'est là que nous expliquons ce que nous voulons dire, lorsque nous utilisons le terme avis. Il y a eu un groupe de travail conjoint sur cela et il a été confirmé ensuite par l'équipe de révision sur la transparence et la responsabilité pour voir les manières dont nous pouvions améliorer la communication du GAC par rapport aux avis et aux conseils qu'il présente. Et il y a eu aussi des modifications qui ont été apportées au communiqué parce que d'habitude, le GAC présente son avis dans le communiqué. Nous avons donné une définition de tout cela pour pouvoir expliquer que notre avis est présenté sous forme écrite et qu'il est reflété dans le communiqué, mais nous avons aussi des avis qui sont présentés dans des lettres. Il y a aussi des documents sur les principes de fonctionnement et c'est là que nous donnons aussi notre avis. Je pense que cela a eu un effet positif quant à l'amélioration de la communication et pour avoir, un registre plus clair des avis qui ont été présentés par le GAC au conseil d'administration, quand et où, et quand nous avons reçu des réponses à notre avis. Nous voulons ajouter certaines choses là dans ce registre pour que cela soit plus utile pour nous tous aussi. Le processus de rédaction du communiqué consiste à travailler pendant les réunions en présence. C'est quelque chose de très difficile, vraiment. Il faut essayer de saisir pendant le déroulement de la réunion les thèmes qui peuvent être inclus dans le communiqué ou sur lesquels on veut communiquer à la fin de la réunion. Il s'agit d'un document qui est structuré progressivement et nous avons le soutien du personnel qui nous aide à établir ces versions préliminaires de façon à les faire circuler aussi vite que possible et que nous puissions, dans les derniers jours de la réunion, peaufiner et finir ce communiqué. Disons que c'est quelque chose qui exerce une forte pression sur nous. Et nous, disons, couvrons un bon nombre de thèmes dans ces communiqués. Cela peut être utile de travailler sous pression pour terminer ce document, mais bien des fois, c'est vraiment un défi à relever que de le faire aussi vite que possible et bien faire. Donc, vous savez que le comité consultatif s'est tellement développé que maintenant, il est très grand et transposer tout ce processus, c'est quelque chose de pas très facile. Anders prend la parole. Bien, merci. Si vous avez des questions, je vous demande de les de les garder pour plus tard, parce que je voudrais demander à Alice de parler maintenant. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce qu'est le communiqué? Heather a dit que c'était négocié. Cela peut avoir l'air d'être un peu secret pour les gens qui ne sont pas dans le GAC. Mais il y a un avis là, mais il y a un texte sur certaines choses. Et nous voudrions que tu nous expliques comment ça fonctionne. Alice prend la parole. Anis Munua. Merci beaucoup. Anders, juste pour suivre ce que Heather a dit sur le communiqué, c'est la manière dont le GAC produit ou développe ou élabore son avis. Au début, il y avait une confusion assez grande sur ce que c'était ce communiqué. Le communiqué a beaucoup changé parce que, il y a quand même beaucoup plus de clarté à cet égard. Les échanges entre les différents membres du GAC au cours des réunions, nous avons eu hier une réunion avec le conseil d'administration. Ça, ce n'est pas l'avis du GAC. L'avis du GAC est un texte négocié qui est présenté sous forme écrite. Il fait partie du communiqué du GAC. Parfois, il s'agit de lettres qui sont envoyées à la présidence du GAC ou au conseil d'administration avec des échanges de lettres avec les autres comités consultatifs et les autres organisations de soutien. Je veux dire que nous, à vrai dire, il y a toujours certaines tensions entre le gouvernement lorsque nous parlons d'une série de principes de haut niveau. Nous, dans notre qualité, en notre qualité de GAC, nous avons créé ces principes qui sont liés aussi aux principes de nouveau GTL, aux principes du JUIS de 2007. Cela nous aide à travailler et cela concerne surtout des aires de politique et de réglementation. Ces principes de nouveau aident le GAC au niveau national pour pouvoir informer nos entités de réglementation et nos procédures de politique. Quant à la vie du GAC, et je pense que c'est l'un des plus grands défis, il faudrait voir comment on identifie ou comment on comprend la notion d'avis. Pour savoir quelles sont les actions ou les mesures à prendre pour répondre à cet avis du GAC, je vais vous donner quand même l'exemple du guide de candidature. Lorsque le GAC a commencé à s'entretenir avec des collègues d'autres unités constitutives, le processus a été assez frustrant. Nous avons créé à ce moment-là, ou nous avons élaboré à ce moment-là, ce qu'on a appelé le scorecard, la fiche de suivi du GAC. C'était en février 2011. Et cette fiche de suivi reflétait les négociations entre les membres du GAC. Et il y a eu des volontaires qui se sont proposés comme leaders pour chacune des parties spécifiques du texte. Voilà l'un des meilleurs exemples pour que vous voyez comment élabore le GAC son avis. Et je l'ai dit parce que, à vrai dire, nous commençons juste à aborder toute cette question du modèle multipartite, en quelque sorte, cette approche multipartite. Ce modèle nécessite d'une forte flexibilité des négociations, des interactions, nous entendre, nous écouter les uns les autres au sein du GAC, écouter les collègues d'autres unités constitutives et d'autres États membres. Je crois que nous n'avons pas encore vu le modèle multipartite mis en œuvre au niveau national de façon efficace. Mais c'est une nouvelle approche qui fonctionne à l'ICANN et cela évolue. Je veux dire que l'ICANN est la seule entité qui élabore des politiques et prend des décisions impliquant ce type et ce niveau de participation de toutes les parties intéressées. C'est quelque chose de très important. Une fois de plus, je veux dire que c'est justement le motif pour lequel la responsabilité de l'ICANN et le processus de responsabilité de l'ICANN seront très importants pour le modèle en soi.
Anders Hector prend la parole. Vous avez parlé de la fiche de suivi. Pensez-vous que cette fiche de suivi est utile pour les discussions, les échanges du GAC avec le conseil d'administration? Est-ce qu'elle est disponible sur le site web? Alice Munoz prend la parole. Oui, c'est disponible sur le site web. Et nous trouvons qu'il s'agit d'une fiche très utile parce que cela nous permet de faire un suivi de notre avis et de la mise en place de cet avis par le conseil d'administration. Léonid Andersektor prend la parole. Diapo suivante. Nous avons un peu de temps pour des questions-réponses. Si vous avez des questions, je vous prie de les poser maintenant. Nous avons eu ce forum ouvert au FGI d'Istanbul et c'était très intéressant parce que il y avait des gens qui n'étaient pas connectés à l'ICANN qui nous ont posé des questions. Et certaines des questions, les gens n'ont pas eu le courage de les poser pendant la séance et l'ont posé après. Comme par exemple la question concernant comment les représentants sont élus. Est-ce que Heather, vous pourriez répondre à cette question, s'il vous plaît? Heather Dryden prend la parole. Tout d'abord, je pense qu'il est clair que l'on parle des membres du GAC et des représentants du GAC et des conseillers du GAC. Quand nous parlons des membres, nous parlons d'entités, c'est-à-dire des gouvernements. C'est un gouvernement qui est membre du GAC. Puis les gens sont les représentants. Il peut y avoir différents représentants, il peut y avoir des conseillers qui font partie de la représentation d'un gouvernement auprès de ce comité. En ce qui concerne les membres du GAC, les gouvernements ou les organisations intergouvernementales qui nous rejoignent en tant qu'observateurs, cela se fait par un échange de lettres entre le conseil d'administration, le GAC et les organisations qui souhaitent devenir des observateurs, des différentes économies. Donc, il y a une lettre qui est envoyée au GAC. Il y a des consultations qui se font pour prendre une décision. Et cela est décrit dans les principes opérationnels. Et c'est le président du GAC qui s'occupe de trancher ce type de questions. Après, il y a des personnes en particulier qui représentent les membres du GAC. C'est une décision qui relève des différents gouvernements. On reçoit ce type de questions très souvent parce que ils pensent que ils peuvent poser des questions par rapport à la raison pour laquelle ils ont été nommés par leur propre gouvernement. Mais cela relève de la responsabilité des différents gouvernements. Il y a une personne qui représente le gouvernement et c'est tout. C'est comme ça que l'on a les représentants au sein du GAC. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Andersektor prend la parole. La situation des observateurs, comment sont-ils choisis? Il y a des délibérations internes au niveau du GAC. Voilà. Nous avions d'autres questions, comme par exemple de savoir si le GAC vote par rapport à certaines questions. Oui, nous votons. Par exemple, hier, nous avons voté le nouveau président et les nouveaux vice-présidents. Mais nous ne votons pas sur des questions en particulier. Nous travaillons par consensus. Il y a une question générale par rapport à ce que représente le consensus pour le GAC. Thomas a parlé un petit peu de cela. Il nous a montré ce que disent les principes opérationnels par rapport à cela. Et on en a parlé aussi quand on a parlé du communiqué. S'il y a d'autres questions par rapport à cette question du consensus, je vous prie de la poser et de bien spécifier ce que vous voulez savoir. Une autre question qui est posée au panel concerne comment nous nous préparons chez nous, dans nos propres pays. Vous avez dit qu'il y a eu différentes réunions du groupe en Suède. Et nous avons d'autres groupes qui se réunissent avant les réunions du GAC et des réunions avec les différentes parties prenantes. Le Brésil a une organisation nationale multipartite Et j'aimerais demander de gauche à droite aux membres du panel, avez-vous ces groupes de référence, comme c'est le cas du Brésil, ou des communautés avec lesquelles vous travaillez pour vous préparer? Banavit Akupotre prend la parole. Merci, Anders. Je pense que pour le travail de préparation, les méthodes que l'on applique en Thaïlande peuvent différer de celles appliquées dans d'autres pays. D'autres pays peuvent travailler avec d'autres organisations liées à l'ICANN. La Thaïlande travaille peut-être seulement avec les gens des CCTL, quand nous avons essayé d'établir des groupes multipartites au niveau local, nous sommes rendus compte que le GAC devait s'ouvrir à tous parce que ces gens ne pouvaient pas nous rejoindre à toutes les questions et nous devons donc commencer un travail de diffusion et de sensibilisation. Nous avons commencé par les GTLD, les questions liées aux GTLD en Thaïlande. Après l'étude des GTLD, on a essayé d'aider les candidats en Thaïlande. Quels seraient donc les problèmes? Mais je voulais dire que nous essayons de travailler de très près avec l'IDN, avec les questions liées au Huis en ce qui concerne la traduction et la translittération des informations de contact. Il y a une version préliminaire du rapport qui sera publiée bientôt. Il y a beaucoup de discussions par rapport à ce sujet parce que cela affecte tout ce qui a trait au code non ASCII. Et nous suivons aussi les discussions avec la Geneso par rapport au nouveau GTLD. Donc, quand on parle de la préparation des réunions, de la stratégie au niveau mondial, cela ne concerne pas uniquement le GAC, mais aussi des réunions avec les communautés locales pour chercher leur avis, chercher à connaître leur avis et pouvoir faire un suivi à tous ces niveaux. Merci beaucoup. Thomas Schneider prend la parole. En plus, de ces consultations spécifiques en Suisse, nous avons d'autres parties du gouvernement, d'autres parties prenantes. Nous avons établi en 2003, pour la première phase du sommet mondial sur l'information, sur la société de l'information, une plateforme multipartite ouverte à tous. Et cette plateforme se réunit deux fois par an en personne. Nous avons une liste de diffusion où nous envoyons des informations. Et c'est un essai pilote que nous avons mis en place au forum sur la gouvernance de l'Internet en Suisse. Et nous essayons de créer un forum sur la gouvernance de l'Internet. Nous sommes un acteur important dans ce domaine pour essayer de stabiliser Eurodig et nous avons créé donc cette plateforme pour pouvoir discuter avec toutes les parties intéressées. Olga Cavalli prend la parole. Comme j'ai dit avant, au niveau national, nous avons une commission pour coordonner les questions politiques concernant l'Internet. Mais de manière plus informelle, dans notre bureau au ministre d'Affaires étrangères, nous avons le mandat de faire le suivi de toutes ces réunions concernant la gouvernance de l'Internet, y compris les ICANN. Nous examinons toutes les questions qui sont dans l'ordre du jour du GAC et nous nous focalisons plus activement sur ces questions qui sont plus importantes pour notre pays. Et nous suivons activement d'autres dossiers aussi, comme c'est le cas de la protection des noms géographiques. Nous participons dans un groupe de travail où des questions liées aux IDN, qui ne sont pas aussi importantes pour la communauté hispanophone, nous les suivons également par le biais d'autres collègues. Nous menons des consultations au niveau national avec les experts, le cas échéant. C'est des experts qui n'appartiennent pas uniquement au gouvernement, mais à d'autres parties prenantes. Et nous avons une coordination au niveau régional. Nous essayons d'encourager la participation d'autres pays de l'Amérique latine et des Caraïbes au GAC. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et pour moi, au niveau personnel, il est très important les commentaires de la communauté de l'ICANN. Tous mes amis dans cette communauté m'ont beaucoup aidé à comprendre les différents dossiers. Pour moi, cela est très, très important de la part de la GNSO, CCNSO, les gens du personnel. Quand on pose des questions, on demande des précisions, les réponses m'aident à pouvoir poursuivre mon travail quotidien au sein du GAC. Andrés Hector prend la parole. Je voudrais demander aux gens, aux participants, s'ils souhaitent poser une question. Levez la main. Très bien, je vois qu'il y a deux questions. Monsieur, vous étiez premier. Si vous pouvez vous approcher du micro. Dites-nous d'où vous venez, votre nom, s'il vous plaît. Merci, Président. Je m'appelle Jameson Olofey. Je suis le président de l'unité commerciale, mais je parle ici à titre personnel. Je tiens tout d'abord à féliciter Thomas pour son élection et je lui souhaite bon courage. 70% des membres des Nations Unies sont membres du GAC. Et pour arriver à ce stade, je pense que un grand travail a été fait. Ma question est de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce 30% qui reste, non seulement ceux qui ne sont pas au GAC, mais il y a beaucoup de membres actuels qui ne sont pas tout à fait actifs. Est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de rapprocher ces gens et de les rendre, de faire en sorte que leur travail soit plus actif? À partir de la question de la votation d'hier, nous avons eu 98 votes. Il y a eu des votes aussi par correspondance. Nous avons 546 membres et nous n'avons eu que 98 votes. On a été un peu déçus. C'est Anders Hector qui parle. Vous mettez l'accent sur une question qui est tout à fait valable. D'un côté, on a tous les gouvernements. Tous les gouvernements ne sont pas membres du GAC et d'autre part, parmi ceux qui sont membres du GAC, et tous les gouvernements ne participent pas avec la même force. Heather Dryden prend la parole. En ce qui concerne la participation active, c'est quelque chose de difficile à encourager. Avec le programme des nouveaux GTLD et les dossiers qui peuvent être plus intéressants pour certains gouvernements, des chaînes de caractères par exemple, qui ont été demandées, qui ont suscité l'intérêt de certains gouvernements. Et compte tenu de l'avis du GAC pour les noms de domaines controversés, je pense que tout cela a fait en sorte que certains gouvernements soient plus actifs. Et le GAC, c'était un forum utile pour ces gouvernements pour essayer de faire passer leurs messages et obtenir des réponses à leurs préoccupations. Si les gouvernements constatent qu'il y a un dossier qui les intéresse ou qui les inquiète au niveau national, ils vont venir aux réunions, ils vont participer à notre travail. Avec la transition du rôle de supervision des fonctions d'IANA et le processus d'amélioration de la responsabilité de l'ICANN, ce sont des dossiers très importants et je crois que nous allons voir une participation accrue des gouvernements qui veulent savoir comment ces processus vont se développer, comment ils peuvent influencer ce processus. Il y a bien entendu d'autres canaux que les gouvernements peuvent utiliser pour en faire le suivi. Mais le GAC doit être un endroit où les gouvernements puissent faire un suivi de ce travail qui est fait par la communauté. Nous avons mis en place beaucoup d'efforts pour pouvoir attirer de nouveaux membres, de nouveaux gouvernements, mais ce n'est que le début. Je pense que nous avons beaucoup amélioré l'accueil que nous donnons aux nouveaux membres, les explications que nous donnons par rapport à la façon dont fonctionne le GAC, pour que ces nouveaux membres puissent être familiarisés par rapport au travail du GAC et de l'organisation. Je pense que c'est un travail très positif qui a été fait pour pouvoir attirer plus de membres au GAC et avoir une participation active plus importante. Merci. Anders Hector prend la parole. Manal Ismail. Pardon, Olga Cavalli prend la parole. Je pense que cela fait partie de l'évolution. Le GAC a plus de membres qu'avant. C'était petit avant. Maintenant, nous avons de plus en plus de participants. Le défi à relever, c'est d'être plus actif. C'est une difficulté à laquelle nous sommes confrontés au niveau régional aussi. Ceux qui avons un peu plus d'expérience au sein du GAC, nous devons encourager d'autres pays de la région à nous rejoindre, à participer, à connaître quels sont les dossiers sur lesquels nous nous penchons. Et donc notre responsabilité, la responsabilité de ceux qui sont plus actifs est celle-là, attirer d'autres pays, les encourager à participer. Le personnel de l'ICANN fait un grand travail, au moins au niveau de l'Amérique latine. Nous travaillons ensemble, nous travaillons beaucoup avec les gouvernements pour essayer de les encourager à participer. Anders Hector, on va accepter d'autres questions. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous demander d'être bref et nous allons essayer d'y répondre brièvement aussi. La dame qui est au fond, qui avait levé sa main, merci. Je suis conseillère juridique du Brand Register Group et ma question concerne les codes géographiques et la question des noms de pays et leur utilisation. Je pense que tous les membres du GAC sont intéressés à l'utilisation des services localisés et l'utilisation des extensions des noms de pays pour identifier ces services pour les internautes locaux. Les chaînes à deux caractères, la question des chaînes à deux caractères ont été traités au sein du GAC de façon très constructive car ils n'ont pas été considérés comme quelque chose de problématique. Il y a eu certains candidats de registre dans cette séance, y compris des représentants de notre groupe, le BRG, qui ont voulu parler et faire des commentaires, mais il semblerait que finalement cela n'a pas été nécessaire. Or, maintenant, vu la position du GAC par rapport à ces codes de pays à deux caractères, il semblerait qu'il y ait des changements. Et je me demande comment nous pouvons interagir pour pouvoir résoudre la question de pouvoir proposer ces services au niveau local pour les internautes locaux. Heather Dryden prend la parole. Je pense que l'objectif du GAC, est de refléter cette discussion qu'il y a eu au niveau du communiqué. Ce que l'on devrait refléter dans le communiqué, c'est ce dont on a discuté. Le communiqué, c'est justement un enregistrement des questions qui ont été traitées. Et le défi, je pense, pour vous, consiste à voir que cela a lieu dans une réunion à huis clos. Vous pouvez participer à toutes les réunions qui sont ouvertes à tous et j'espère que ce que l'on mettra dans le communiqué définitif reflétera de façon correcte ce dont on a discuté dans la séance à laquelle vous faites allusion. Léon Andrés Hector prend la parole. Une dernière question. Lee Kratz, je viens de Saint-Paul, Minnesota. Ce n'est pas une question directe, c'est plutôt une déclaration. Dans votre site web, je crois que tous les utilisateurs de l'Internet doivent pouvoir donner leur avis par rapport à, aux pratiques. Mon organisation a envoyé plusieurs lettres aux dirigeants de l'ICANN et nous avons profité toutes les occasions possibles pour manifester notre préoccupation par rapport à, au nom de domaine de premier niveau .pharmacie. Nous avons reçu une seule réponse à toutes ces lettres où on nous disait qu'ils allaient nous répondre. Et écoutez que l'Association nationale de conseil d'administration de pharmacie nous dise cela, que ce nom de domaine a été déjà attribué. Si c'est le cas, je pense que nos demandes n'ont pas été prises en compte et que l'on n'a pas respecté la promesse selon laquelle la voix de tout le monde allait être entendue. Mon organisation, RX Rights, a collecté 25 000 signatures d'utilisateurs d'Internet des États-Unis qui sont préoccupés par cette question liée au nom de domaine. Nous avons le droit de faire entendre notre voix. C'est pour cela que j'aimerais vous donner une lettre et une demande. Anders prend la parole. Merci. C'était une déclaration. Heather, voulez-vous prendre la parole? Heather prend la parole. Merci. L'intention de cette séance, c'était que le GAC puisse expliquer comment il fonctionne et comment il travaille avec d'autres collègues de la communauté lorsqu'ils discutent par rapport à certains sujets. Voulez que l'on transmette cette information aux dirigeants de l'ICANN. Nous faisons partie de cette organisation en tant que gouvernement. Nous nous réunissons, nous discutons par rapport à certains dossiers. Je vous suggère la procédure suivante. Nous allons faire parvenir ce matériel, cette lettre, aux dirigeants de l'ICANN. Anders prend la parole. Merci. Ashwin, voulez ajouter quelque chose? Ashwin prend la parole. Oui, tout simplement, je voulais dire que quand j'ai rejoint le GAC en 2008-2009, quand j'ai assisté à la première réunion du GAC, c'était une réunion du GAC qui se faisait deux ou trois fois par semaine et qui durait trois heures. Maintenant, nous avons une semaine complète de réunions du matin jusqu'au soir et parfois, on arrive même à rester jusqu'à très tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire combien l'Internet est important pour les gouvernements au niveau mondial. C'est une importance qui ne fait que devenir clé pour les gouvernements, car il faut donner une réponse à nos gouvernements et à nos citoyens. J'espère donc que ce soit clair, parce qu'en Indonésie, nous représentons le pays, mais aussi tous les habitants, les millions d'utilisateurs de l'Internet dans notre pays. Nous ne devons pas perdre de vue, vous voyez, ce symbole que vous voyez, Mind the GAC. Il faut vraiment avoir à l'esprit cela. N'oubliez pas le GAC, parce qu'il faut que nous, en tant que représentants du GAC, il faut toujours tenir à l'esprit que nous voulons un Internet unique pour tous. Anders prend la parole. Merci beaucoup. Je remercie tous les gens qui ont participé à cette réunion si tôt, notamment tous ceux qui ont participé à cette réunion dès le début. Merci aux panélistes. Si vous avez d'autres commentaires par rapport à ce forum ouvert, il y a une adresse de courrier électronique sur l'écran et vos commentaires sont bienvenus. Merci beaucoup.